Nous revoici dans le studio et nous allons parler maintenant de SOS Maman. Alors, Winfried Würmeling, je vous avais invité le 21 novembre 2008, donc pratiquement un an, jour pour jour, et vous m'aviez cité trois problèmes majeurs que vous rencontrez sur le terrain. Vous étiez confronté donc à des prostituées généralement venues d'Europe de l'Est, à des esclaves d'ambassade à Paris, et vous évoquiez également ce que vous nommez donc les mères terribles. Alors, est-ce que la situation a changé et est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer, nous présenter un peu chacun de ces profils, s'il vous plaît?
Oui, ces trois types de femmes que nous rencontrons, ça nous occupe toujours et autant. Surtout les prostituées de l'Est, ça n'a pas du tout l'air de se diminuer. On est en région de Île-de-France, mais aussi à Nice et sur la Côte d'Azur. Et au Benelux, où nous travaillons aussi. Mais il s'ajoute une quatrième catégorie extrêmement dure maintenant, et là nous avons un peu affaire à l'État, c'est-à-dire le logement. De plus en plus, pour nous, ça devient une catastrophe, parce qu'en sauvant toutes ces mamans avec leurs enfants, une fois que les enfants sont là, nous sommes maintenant à 610 bébés sauvés, directement de l'avortement, eh bien ces mamans-là, souvent elles n'ont pas de papa, justement pour cause, parce que c'est eux qui voulaient qu'elles avortent, etc. Donc elles assurent toutes seules. Mais comment trouver un logement? Alors, résultat, nos studios que nous louons à Paris, dans ce but, qui sont théoriquement provisoires, eh bien elles s'éternisent là-dedans, elles restent 2 ans, 3 ans. Et c'est
alors et ça. Et qui les entretient? C'est SOS Maman alors
qui... Oui, c'est l'association qui a fait un contrat normal de location. Mmh. Donc nous, on peut, du matin au soir, on peut loger quelqu'un. Mais si tout ça devient un statut...
Hein, oui, forcément, ça vous paralyse.
On n'a plus de... Voilà. Et donc, maintenant, le problème, c'est on loge les gens à l'hôtel.
Ah oui, donc ça coûte beaucoup.
Actuellement, nous avons 38 mamans logées et hébergées. Nous, SOS Maman. Soit dans nos studios... surtout sur Paris, soit chez nos familles hébergeuses, en Normandie, Bretagne, au Benelux, et surtout à Côte d'Azur, là, on a une dizaine de familles qui accueillent, mm-hmm. chaque fois 2-3 mamans en même temps, pour qu'elles se consolent un peu entre elles, etc., elles sont pas toutes perdues. Bon, mais tout ça suffit plus, et maintenant on tombe toujours de nouveau sur d'autres mamans, et quoi faire? Et actuellement, nous avons les premières femmes maintenant, de semaine en semaine, je paye en hôtel, 59 € la nuit, ou alors 45 € la nuit, si ça tombe mieux. Alors c'est là que nous sommes allés avec ces dames à l'assistante sociale pour voir ce qui se passe. Et là, peut-être tu expliques
oui,
ça.
Oui, Léa, donc.
Parce que... Oui, alors pour...
Léa, vous êtes donc sur le terrain, vous, c'est ça?
Oui,
hein,
moi,
vous...
je suis la fourmi. Je suis la fourmi d'SOS Maman. Donc, c'est...
Dans le micro, s'il
vous plaît. Ces pauvres mamans, elles, bon, bien souvent, elles sont toutes seules. Elles ont maintenant leurs enfants avec elles. Donc, il faut trimballer le bébé, les couches et tout ce qui va avec dans les services sociaux. Et croyez-moi, c'est du sport. On vous fait attendre et mariner un bon moment. Pour vous dire, ah ben, vous n'avez pas d'adresse, ben ma pauvre dame, je ne peux rien pour vous. En fait, c'est le chat qui se mord la queue, quoi.
Ben oui,
parce que vous n'avez pas d'adresse, vous n'avez pas de boulot, et ouais. Pour toutes ces situations, il vous faut une adresse. Donc, résultat, vous repartez encore plus abattu que vous êtes arrivé, et il faut demander aux copains, la famille, qui bien sûr, dans ces cas-là, est tout à fait inexistante.
Plus, oui.
Ben, les copains, au bout d'un moment, ils en ont vite marre, parce que ils ont déjà leurs problèmes, et puis, quelque part, ils se sentent aussi fautifs d'avoir eux ce que vous n'avez pas, donc c'est ennuyeux. Et puis en fait, si on n'arrive pas à les mettre sur une autre branche, et ben après, ben voilà, elles recommencent à faire des bêtises un peu plus grosses qu'elles ne faisaient, ouais. Et puis tout est à recommencer.
Alors vous avez des cas concrets à nous présenter éventuellement?
Des cas concrets.
Oui, Marie, par exemple.
Alors, vous m'aviez parlé d'une dame, peut-être qui s'appelle Christine. Il y a également dans le journal que vous mettez en ligne beaucoup de filles de l'Est.
Oui. Que vous aussi des Françaises. Là, on a une Française, elle a 40 ans, elle a un bébé de 2 ans. Elle est depuis 30... D'ailleurs, elle a parlé ici sur Radio Courtoisie déjà. Ouais. Mais ça ne veut pas dire qu'elle a trouvé quelque chose.
Non. Ouais.
Elle erre dans les rues. Elle a même loué un conteneur.
Et de quoi a-t-elle besoin? Elle a besoin d'une famille, elle a besoin d'un logement.
Elle a besoin d'un appartement.
Un HLM.
D'accord. Alors, chers auditeurs de Radio Courtoisie, si éventuellement vous avez une chambre vide, peut-être pourriez-vous pour quelques jours contacter SOS Maman. Parce que vous travaillez également avec des familles d'accueil, c'est bien cela?
Oui.
Voilà. C'est donc ça, ce sont des bénévoles.
Pour les mineurs, non, oui. C'est ça.
D'accord.
Voilà.
Et c'est légal? Enfin, comment faire alors? Parce qu'il y a un problème.
Oui, absolument. Ils peuvent prendre des amis, etc. Donc ça va. Mais je voulais surtout parler de cette. C'est une forfaiture d'État. On laisse venir les étrangers par millions et après on les laisse crever dans la rue.
Oui.
Mais c'est vraiment insolent comme comportement d'un État où on ouvre les portes et on accommode. Et on mais il n'y a même pas d'HLM. Il paraît qu'il y a en France 800 000 demandes de HLM, dont 600 000 en région parisienne, et la préfecture de Paris vient d'annoncer qu'elle n'a que 50 000 par an à donner. Alors ça, j'appelle ça une forfaiture. Alors si on veut aller sur Mars ou changer le climat à 2 degrés, et on n'arrive même pas à loger les gens dans la rue, mais c'est quoi comme État? Donc là, on est vraiment en révolte un peu, et ça, c'est notre quatrième problème direct qu'on rencontre actuellement. On ne sait pas comment on va s'en sortir.
D'ailleurs. Parce que les mamans, une fois qu'elles ont leur bébé, qu'elles ont qu'on leur a donné le peu qu'elles peuvent attendre de l'État, c'est-à-dire, je vous assure, pas grand-chose.
C'est pas grand-chose, hein. Oui. Combien elles peuvent avoir? C'est un petit secours? C'est une cinquantaine d'euros par mois ou un truc?
Entre l'allocation jeune enfant et je sais pas, 2-3 allocations qu'on vous...
On tourne à 200 alors?
Oui, 200-250. Oui. Alors comment vous voulez énorme. Vivre, vous, mois oui. dans... même en France, avec ça, c'est pas possible.
C'est
même en mangeant des petits bouts de pain, un bébé, ça mange, ça a besoin de lait, de couches, de...
Bien sûr, oui, et puis d'être protégé, enfin d'une
oui,
grande protection.
Oui, d'avoir un toit sur la tête, c'est un minimum. Et ça, malheureusement, les services sociaux... en fait, les mamans, quand elles vont dans les services sociaux. C'est pas pour me foutre les services sociaux à dos, quoi, que j'ai déjà fait. Mais elles font tout ce qu'elles peuvent pour décourager les mamans. Genre, ah ben non, votre dossier est pas complet, faut revenir. Alors, moins vous revenez, moins elles ont de boulot. C'est à croire qu'on les paye, on sait pas pourquoi.
Oui, mais les
non,
pauvres,
non, mais vraiment, c'est inhumain de réagir comme ça. Moi, les pauvres mamans, je les vois des fois avec un ou deux gamins, plus les courses, plus... Je sais pas les hommes politiques, ils habitent pas là où je vais, hein. Ils connaissent pas la France. Je suis désolée, mais moi quand je vois ça, j'ai envie de leur mettre le nez dedans, quoi. C'est triste,
oui,
à dire, mais
elle est en colère, elle vient me voir, elle dit écoute, j'ai là deux nouvelles filles, qu'est-ce qu'on en fait? Et on en met parfois 5 chez nos hébergeuses. Par exemple, là, on a à Nice une personne, elle prend maintenant 5 de nos filles. Bon, c'est un peu facile, là-bas, ils ont une villa et derrière, encore une petite datcha.
Bon,
c'est ce qu'ils transforment et ça devient tout un petit
foyer.
Enfin,
c'est une grande générosité.
Oui,
c'est quand même
il y a même, en Normandie, on a un cas où 3 jeunes filles se sont mis en colocation, ont loué eux-mêmes, ensemble, une maison. Ils se partagent un peu les... Et nous, on leur achète de temps en temps une machine à laver la vaisselle, ou une Hollywood pour le jardin, quelque chose comme ça.
C'est formidable.
Mais ils s'autogèrent formidablement. Et c'était le bébé qui leur a donné l'idée de se structurer, de se prendre en main. C'est extraordinaire, des vrais miracles.
C'est la naissance de l'enfant qui a donné.
L'enfant qui est annoncé.
Et maintenant, ces 3 jeunes femmes, elles accueillent, bon, pas 50 000 personnes, mais elles accueillent maintenant d'autres mamans qui sont dans la situation où elles étaient il y a encore quelques mois.
Alors ça, c'est formidable. Ça veut dire que finalement, le fait de garder cet enfant, ça les a non seulement structurés, mais ça les aide en plus à s'épanouir et à aider d'autres personnes.
Ça leur donne une sacrée force. Ouais.
Eh bien, c'est le bébé, souvent, surtout dans le cas des prostituées, qui sauve sa maman. Ouais. C'est le bébé qui sauve sa
maman. Alors pouvez-vous nous expliquer un peu ça, enfin nous raconter quelques exemples si vous en avez?
Alors il y en a, par exemple, une fois on avait une prostituée, on les rencontre comme ça, c'est dans la journée qu'il faut liquider le cas.
Oui.
Dans la journée.
C'est-à-dire,
si
ça
possible,
se passe, vous la voyez, vous la repérez. C'est vous, Léa, qui faites ça en partie?
Ah oui.
Enfin, maintenant, ça marche un peu par bouche à oreille parce que mon prénom commence à être connu.
Oui.
Mais au début, j'allais me balader forcément dans ces coins-là parce que ces jeunes femmes-là, elles ont aussi des problèmes et malheureusement
bien
encore
sûr,
plus qu'une maman dans un état critique.
Évidemment,
déjà. Ouais. Et. Ces pauvres filles, elles savent pas vers qui se tourner. Bien souvent, elles parlent
Elle parle pas la langue.
Pas la langue. L'anglais, c'est juste. Moi, l'allemand, c'est même très court.
Donc, mais c'est fait exprès, d'ailleurs, hein, parce que...
Voilà, on les change tous les 3 mois, maintenant, pour qu'elles aient pas de point d'ancrage, qu'elles ne soient pas faites d'amis.
Et les proxénètes, moi, j'ai fait un reportage récemment là, sur la Bulgarie et le trafic d'êtres humains. Les proxénètes bulgares gardent les filles qui parlent plusieurs langues en Bulgarie,
oui.
Où elles sont vendues à des clients européens.
Étrangers.
Exactement. Et ils envoient dans les pays d'Europe celles qui ne parlent aucune langue. Voilà. Elles connaissent le prix de leur passe et c'est tout. Elles savent dire leur prestation, si je puis dire, et le prix. Et c'est tout. Et dès qu'elles commencent à maîtriser un peu... Hop, elle tourne.
Elle change, voilà. Ça va, elles vont à Hambourg,
Mais là où la prostitution, Belgique, dans les trucs, circuits, les zero centers, enfin les endroits où c'est à peu près légal.
C'est très chaud, quoi.
Oui.
Voilà.
Mais là, c'est le bébé qui déclenche pratiquement sa libération, hein, oui. Parce que là, elle se prend en main, et elle voit la chance qu'on lui donne. On dit,
c'est maintenant
condition, faut couper, hein. Oui. Il y a plus de téléphone mobile, c'est terminé. Parce que là, chaque contact dans l'autre monde est mortel.
Oui, c'est certain. Hein, parce qu'on prouve, oui.
Voilà.
Alors comment faites-vous? Vous la littéralement, c'est une comme on dit dans le jargon policier franglais, c'est une exfiltration, c'est-à-dire
on veut pas trop donner les détails, mais par exemple une fois donc on avait la Natacha, hein, et on dit qu'est-ce qu'on en fait, et on a traversé la rue, il y avait un taxi, j'ai dit monsieur en une phrase, j'ai là une prostituée, il faut la sortir tout de suite de Paris, ils sont à 7 rousses. Vous n'avez pas une solution. Il dit, ça tombe bien, dans une demi-heure, je vais chez ma belle-mère en Lorraine, je peux l'amener le week-end. Oh. Et elle est restée des mois, elle a accouché, etc. Vous voyez, il y a beaucoup de bonne volonté qui se cristallise autour de ces sauvetages. Et ça, c'est quelque chose de très encourageant. C'est pas seulement les catholiques pratiquants, c'est là, au contraire, c'est justement les gens très très simples, non pratiquants, qui se dynamisent.
Mais parce que là, il suffit d'avoir un comportement humain. C'est-à-dire,
avoir un comportement humain.
Absolument. Que François Bousquet, est-ce que ça vous évoque un peu quelque chose, François Bousquet, donc directeur du Choc du Mois?
Non, je suis impressionné par le travail que vous faites. Hein. Les femmes viennent à vous, ou c'est vous qui allez à elles, hein?
Ça dépend des circonstances. Bien souvent, où elles sont toutes seules dans un coin, où elles sont dans un parc en train de pleurer. Donc, je m'assois un petit quart d'heure et puis je regarde ce qu'elle fait, ce qu'elle dit, si elle appelle quelqu'un.
Et la confiance s'instaure et de là.
Déjà, moi, je suis une femme, je suis assez facile de contact, ouais, donc ouais. J'écoute, puis ça va très vite, elles ont besoin de parler, elles ont besoin de se confier, puis après ça, elles me disent assez vite, oui, ce qui va pas, quoi. Et ce qui va pas, c'est on leur tape dessus, on les empêche de tout.
Non, non, mais c'est du dressage, la prostitution, on en parle, bien sûr. Voilà. C'est du dressage, c'est de la domestication.
Voilà, et c'est...
Bon, c'est le langage du cœur, mais aussi du porte-monnaie. Hein. Il faut quand même en parler.
Oui.
On ne va pas innocemment vers les gens, je t'aiderai, et puis on n'a rien dans la poche.
Non, ça c'est la particularité de SOS Moment. Alors c'est peut-être votre côté... Vous êtes allemand, je crois.
Oui,
c'est peut-être la discipline allemande. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un de très carré.
Enfin, moi je fais un peu le système arrière. C'est-à-dire que j'assure que le travail devant, par nos assistantes, puisse se faire. Pour qu'elles aient toujours 100 euros dans la poche. Qu'on peut tout de suite serrer dans la main. Vous savez, c'est un autre
langage.
C'est-à-dire
que vous ne faites pas du blabla. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans « Ah, je vais vous aider », etc. Vous dites combien ça coûte, on vous donne tant, maintenant c'est parti, et c'est tout de suite qu'on tranche. Ouais.
Bon, et évacuer une fille de l'Est, par exemple, ça coûte quand même 750 euros dans la journée, le soir. Hein, il faut payer.
Il faut trouver tout
le monde. Il faut surtout pas qu'elles restent là où elles sont, quoi.
Oui,
on les planque une après-midi et le soir elles partent vite, quoi.
J'ai fait un petit calcul. Si je regarde ce qu'on dépense et le nombre des bébés sauvés, ça fait quand même à peu près 1000 euros par bébé, hein, aujourd'hui. En moyenne. Il y en a beaucoup moins.
C'est le langage,
pour ainsi dire. Mais l'autre jour, Beckett, il m'a reçu, il a dit, alors bébé, je te présente pas longtemps, tu achètes les bébés, alors comment tu fais? C'était ici, il y a 3-4 ans. Hein.
Alors, vous menez donc un combat, évidemment spirituel, vous venez de dire catholique, mais Léa, vous menez aussi un combat sur le terrain, donc, et apparemment, c'est pas toujours spirituel, ça peut devenir aussi assez...
assez violent,
assez physique.
Voilà, alors, on va dire physique, oui. Ça m'a coûté quelques côtelettes et puis une main cassée, quelques nions, on va dire.
Alors, qui vous frappe?
Ah ben, bien souvent,
c'est le proxénète ou...
c'est, oui, ouais. On sait, plusieurs fois, je me suis fait courser et il y a certains endroits que j'évite, quoi, maintenant, parce qu'ils connaissent mon prénom, donc... et puis j'évite de...
Et ça se passe comment? Alors, ils vous voient en train de parler avec une fille, donc ils tombent dessus?
Ben oui, c'est « qu'est-ce que tu fais là, toi ?» Gna, gna, gna. Oui, enfin, je vous passerai les injures.
Oui, oui.
Et, fous-moi le camp, et puis si on n'obtempère pas assez vite, c'est une baigne, un coup de pied. Ah oui, non, mais c'est vraiment de profond mal élevé.
Alors, oui, c'est le moins qu'on puisse dire là. Elles sont des proxénètes qui viennent de où? Alors, sont des Slaves également
ou... Oui.
Oui, donc ça doit être.
Vu l'accent, ça peut être que ça.
Oui. Oui, mais là, la constitution d'Europe de l'Est,
il n'y a pas que, il n'y a pas que des.
Non, non, je me doute. Mais
bon, la grande majorité. Des Biélorusses, des Ukrainiens, des Russes.
Des Albanais.
Des Albanais, oui, oui. Surtout. Mais elle est modeste parce que, elle s'occupe. Par exemple, l'autre jour, il y avait un garçon qui tapait sur sa fille, mais avec des chaussures en pleine rue, je l'ai vu d'ailleurs. Et elle l'a suivi, et ben, elle a libéré la fille, elle a tapé sur le type, hein. Et elle a dit merci après, hein. Il a dit pour une fois. Bon, mais voyez, ces gars-là, et c'est toujours à cause de l'avortement, toujours, toujours. Ces types-là, ils veulent qu'elle avorte. Et si elle ne le fait pas, ils aident avec des coups de pied dans le ventre. On a vécu ça combien de fois? Et il faut amener les filles d'abord à l'hôpital déjà, pour commencer. Après, à la pharmacie, pour le test Clear Blue, pour voir si elles sont vraiment enceintes. Et puis, quand elles voient « je suis vraiment enceinte », on est déjà à côté. Elle n'a même pas le temps de dire « je vais avorter ».
Oui.
Vous voyez, c'est un peu ça l'idéal. D'aller tellement en amont de cette affaire qu'on est là au moment où les choses se décident. Là, il faut être là et dire « je t'aiderai ».
Oui.
Et ça fait des merveilles.
Hein. Bah, bien sûr. Oui, oui.
Il faut
et surtout
le geste à la parole.
Non seulement vous le dites, mais vous le faites.
Oui.
C'est aussi peut-être ce qui fait que les gens ont confiance, parce qu'effectivement, ils sont pris en main dans la journée, ils n'ont plus à s'occuper de rien et c'est parti. Alors, en revanche, il y a un nombre incroyable de personnes en détresse. Est-ce que vous n'éprouvez pas un peu, des fois, du découragement? Est-ce que vous n'êtes pas un peu fatigué parfois? Est-ce qu'il n'y a pas des échecs aussi qui vous minent?
C'est arrivé.
Si, c'est arrivé. Et puis bon, ça arrivera encore, malheureusement. Mais
alors, comment vous surmontez?
Ah ben, je pleure. C'est triste à dire, mais c'est, si, ça m'arrive très souvent de me dire j'y arriverai jamais, parce que c'est vrai, c'est vider la mer avec un dé à coudre, quoi. C'est puis comme je voudrais pas foutre la merde, mais l'État français fait pas grand chose pour m'aider, ni pour les aider elles déjà, ne serait-ce qu'avec les services sociaux. Donc, j'ai l'impression de m'attaquer à des moulins à vent, quoi, parce que c'est... J'ai beau en sauver, mais il y en a toujours et encore plus derrière, quoi. Ouais.
Oui, bah c'est ce dont on parlera en deuxième partie. Il y a peut-être des solutions plus pratiques, là, qui ne relèvent pas, évidemment, d'une association comme SOS Maman, mais qui relèvent de l'État et d'une volonté politique, en fait. Hein.
Il faudrait qu'ils aient la volonté. Je me demande s'ils l'ont vraiment, la volonté d'aider le peuple.
Parfois, elle me téléphone et je dis « j'abandonne ». Je peux plus, c'est pas possible.
Hein, ah oui, des fois je lui ai fait le coup, je démissionne.
On avait deux Irakiennes, 14 ans, 16 ans d'ailleurs, ici, place Clichy, on les a ramassées. Et elles nous ont dit en anglais, hein, la majeure, elle avait 16-17 ans, elle parlait un peu anglais. Elle dit ses parents ont été massacrés à Bagdad, devant elle, égorgés, et son frère aîné aussi. Et c'est son cousin qui l'a envoyé à Paris. Alors moi j'ai dit, là, il faut pas les laisser à Pigalle, c'est pas possible, en deux mois ils sont sur le trottoir. Et on les a évacués loin. Eh bien, ça allait. Mais on avait là quand même quatre âmes sur le dos, hein. Oui. Deux femmes, sans papier, illicites, parlent pas français, mineures, plus deux bébés dans le ventre, ça fait quatre. Non, c'était déjà assez lourd. Puis coup de téléphone de l'hébergeuse, oui, alors on a trouvé Madeleine, elle s'appelait Madeleine, dans le ravin, dans le coma, le vélo à côté complètement cassé. Apparemment, il y avait un accident de voiture, la voiture.
Oui. Et un délit de fuite.
Elle est partie. Et là, elle a dit... C'est trop fort, là je peux plus. C'était trop fort, c'était presque une révolte en disant ça au bon Dieu, en disant écoute, on s'occupe de tes affaires, faudrait savoir, hein. Bon, de compliquer les choses, mais il faut aussi voir le bon Dieu là-dedans, parce qu'on a appris ce coup-là. Après, Il y avait la naissance, enfin l'hôpital et tout ça, naissance, et il y avait un jeune homme qui a assisté à la naissance. Mm-hmm. On a dit, qu'est-ce que c'est cette histoire ? Eh bien, c'était le fils de l'hébergeuse, et il était fou, amoureux de cette fille-là, de Madeleine, mm-hmm. et elle, folle, amoureuse de lui. Amoureuse de lui. Ils se sont mariés, elle est devenue française, la petite sœur, du coup, regroupement familial. Alors, tout, et le bon Dieu, il a dit, où est le problème ? Alors là, on a appris, vraiment. Donc, c'est nous l'obstacle, pratiquement. Sinon, il y aurait beaucoup plus de sauvetage. C'est nous, nous croyons pas, nous avons pas confiance. Le bon Dieu, c'est le premier qui voudrait que tous les avortements soient évités. Et qui les gêne ? Les chrétiens. Ils croient pas. On peut rien faire. Oh ben, qu'est-ce que vous voulez ? Chacun sa vie. Hein ? Mais combien de fois on est attaqué par nos propres gens ? Qui disent, mais vous sauvez des vies, après on sait même pas ce que ça donne. Des gens dans la rue, avec une maman, un père divorcé ou même pas existant. Ah oui,
c'est hallucinant.
C'est pas toujours facile.
C'est quand même incroyable.
Mais en même temps, la vie, c'est la vie. Hein. Non, on sauve, on sauve.
François Bousquet.
Je vous rappelle que vous êtes sur Radio Courtoisie. Une petite question d'un auditeur qui vous demande si l'association a les moyens de raccompagner les jeunes femmes étrangères dans leur pays d'origine. Je suppose que c'est impossible, oui. Puisque les liens sont totalement rompus. Entre la famille d'origine, puisque une des pratiques justement de la prostitution, c'est l'étanchéité.
Oui, enfin, c'est assez compliqué à faire, mais on y arrive. Mais c'est par des chemins pas très catholiques,
oui,
on va dire.
Pratiquement, oui, orthodoxe plutôt. Parce qu'on téléphone à toute la
vous
famille.
Avez des réseaux, quoi.
Oui, on téléphone à l'Est, mais pas vers
pas
les parents.
À la famille, c'est certain.
Parce que les parents, souvent, sont un peu dans le coup. Avec cette école de mannequins, vous savez, qui a fait une publicité dans le journal de Moscou, etc. Est-ce qu'elles sont payées ? Est-ce qu'ils ont payé ? On ne sait pas trop. Donc, on s'adresse aux mamans, et surtout, non, aux grandes mamans, aux grandes mères. La babouchka. Voilà, la tante. Et ça marche. Oh, t'es enceinte, ma pauvre, mais viens chez moi. À l'Est, c'est plus bien fort le sens de la famille que chez nous. Et toutes nos femmes de l'Est, on les renvoie toutes. Ce qu'on ne peut pas faire du tout avec l'Afrique du Nord.
Ah bon ?
Jamais on peut renvoyer une fille en Algérie ou en Maroc. Elle se fait lapider. Ben, écoutez. Alors, je dis ça comme ça parce que c'est dans le courant.
Ouais.
Mais presque. Au moins, elle perd toute dignité. Elle ne sera même pas accueillie par la famille.
Ah oui, non, sa famille ne veut plus l'avoir.
Jean-Paul Gourevitch. Elle est exclue de la communauté familiale. Elle est exclue du clan. Et ce qui se passe en Afrique du Nord, ça se passe d'une autre façon en Afrique subsaharienne. Parce que là, pour raccompagner ou faire repartir les gens d'Afrique subsaharienne, c'est beaucoup plus difficile que de les faire repartir en Europe de l'Est. Et pourtant, la traite des êtres humains, elle existe à partir de l'Europe de l'Est, à partir de l'Afrique du Nord, à partir de l'Afrique subsaharienne, à partir de l'Extrême-Orient, c'est un phénomène mondial. Hein.
C'est ça. Alors, peut-être d'autres questions d'auditeurs, François ?
Non. Une question personnelle. Vous arrivez à les suivre sur la durée pour voir s'il y a des cas d'insertion ou de réinsertion ?
J'arrive à en suivre certaines, mais pas toutes, parce que vous savez, c'est une période de leur vie qu'elles n'ont pas tellement envie de se rappeler. Bien souvent, on les revoit, mais pas mal d'années après.
D'accord.
Mais pas dans les 5 premières années, le temps qu'elles se dépatouillent de tout
de
ce qu'il faut
histoire,
monter, quoi. Il faut trouver des structures pour l'enfant, pour elle, et ça prend du temps. Croyez-moi, ça prend du temps.
Alors, il faut presque s'effacer un peu après, parce que nous, on fait partie
des
mauvais
souvenirs.
Du mauvais passé. Vous voyez ? Et il ne faut pas dire qu'elles ne sont pas reconnaissantes quand elles ne gardent pas trop le contact. On comprend très bien. Hein. Mm-hmm. C'était un mauvais passage, elles l'oublient presque. Après, elles sont établies, elles ont repris un boulot, elles se sont séparées de la drogue, enfin, chacune avec ses problèmes qu'elle a. Et là, ils veulent presque faire un trait sur cette
logique,
partie de leur vie.
Ouais.
Vous voyez ? Et nous, on tombe avec.
Ouais.
Donc, il ne faut pas trop chercher non plus d'éterniser le contact. Mais parfois, on a des contacts jusqu'à 4-5 ans après. En les aidant à trouver un travail,
c'est bruit,
etc.
Hein.
Mais c'est rare. Hein.
Et alors, vous les aidez, mais qui vous aide alors ? Avez-vous des aides de l'État ? Avez-vous
Ah, de l'État, rien du tout. Je pense même qu'ils nous observent un peu parce que c'est quand même pas très politiquement correct ce qu'on fait. Par contre, on a beaucoup, beaucoup de donateurs. Aussi grâce à Radio Courtoisie. J'ai maintenant, disons, 1000 donateurs ponctuels et 100. Dont 100 avec des, oui, 90 à peu près, des virements automatiques bancaires. D'accord. Ça, c'est vraiment la base pour nous. Oui. Même si c'est 15 ou 20 ou 25 euros par mois, pour nous, ça fait déjà une base de 3000 euros par mois.
Alors, rien j'en profite pour dire aux auditeurs de Radio Courtoisie que c'est effectivement très important de soutenir SOS Maman, mais c'est aussi très important de soutenir par ce moyen, le virement automatique, votre propre radio, parce que c'est grâce à Radio Courtoisie, réellement, hein, que nous faisons, à mon avis, en tout cas, que nous aidons à vivre SOS Maman, mais aussi le village d'enfants de Riaumont, mais aussi toutes ces grandes causes que nous défendons à notre antenne. C'est très, très important que Radio Courtoisie puisse continuer à plaider ces causes.
Oui, je donc, pense qu'en Radio Courtoisie, on serait la moitié de ce qu'on est là. Ça, c'est sûr. Beaucoup de donateurs, je me rappelle, c'était suite à telle émission, etc. C'est vraiment magnifique.
Alors, vous avez besoin également, au-delà donc, du financier, peut-être de familles d'accueil nouvelles, de militants, de gens pour vous aider?
Ah oui. Alors, on est une quinzaine à peu près, tous, avec les hébergeuses. Et c'est pas seulement en France, non, c'est surtout Benelux, France, Géorgie. Oui. Là, on a même acheté une maison. On loge là-bas les femmes. Le même problème, la même activité. Oui. Et on envoie même notre voiture. Voiture de temps en temps là-bas, etc. La voiture de SOS Maman. Et en Lituanie, voilà, c'est à peu près ça ce qu'on fait. Mm-hmm. On essaye de nous implanter un peu en Allemagne, mais ça marche pas bien. Ils sont très très stricts. Je sais pas, ça veut pas fonctionner. J'ai fait déjà plusieurs conférences en Allemagne. Mm-hmm. Ils sont très intéressés, mais ils arrivent pas à se ramasser. Ah. Oui, ils restent éternellement autour du pot de bière. Il faudrait faire quelque chose. Moi, je suis méchant. Je peux le dire, je suis allemand, alors c'est vrai.
D'accord.
Mais c'est la réalité.
Non. Et alors, vous êtes passé à un cran au-dessus ensuite, parce que l'an dernier, vous m'aviez annoncé la création d'un parti qui s'appelle Amen, un parti politique contre l'avortement.
Oui.
Alors, il s'est passé un an, il y a eu les élections européennes, qu'est les élections régionales approchent, qu'est devenu Amen ?
Oui, alors c'est un projet fou, non ? C'est faire un parti politique, on était une douzaine, quinzaine, faire un parti politique. Bon, aujourd'hui, on est quand même une centaine qui ont pris la carte du parti. Le parti existe, le journal officiel a tout publié notre programme. C'est un peu, si je peux expliquer, une émanation de SOS Maman. Parce que si vous travaillez par le bas, par la charité, par l'amour, par la miséricorde vers les gens, et vous sauvez vraiment de la vie, vous rendez compte que toujours de nouveau, il y en a d'autres qui arrivent, et toujours plus. Par les mauvaises écoles, par les mauvaises lois de l'avortement, par toute une influence de la société. Et là, on se dit, il faut absolument prendre ce problème de l'avortement comme un étau, par deux clampes, vous voyez, par le bas, par l'amour, par la charité directe, le bon samaritain, mais aussi par le haut. Et le haut, ça serait tout à fait autre chose. Ça serait un parti politique pour parler comme Jonas. Ninive, si tu ne te convertis pas, tu périras. Et la ville de Ninive s'est convertie avec un seul prophète. Vous voyez, c'est un peu ça. Ce n'est pas un parti pour, comme on nous le reproche, mais on ne rentre pas dans le système. On sait très bien toutes ces pensées, ces argumentations. Il ne faut pas aider le système. Mais c'est un parti qui, dans la scène politique, ouvrirait la bouche et dire « vous êtes des assassins ». Vous, le ministre, vous, le président, vous, les juges, vous, les policiers, vous, les assistantes sociales, vous êtes des assassins. Qui le dit aujourd'hui ? Qui ? Quel parti ? Peut-être certains partis en 7e, 8e article disent protection de la vie, mais ça, pour moi, c'est négociable. Tout ce qui est au-dessous de la première ligne, c'est négociable. Alors, quand c'est la nation, c'est d'abord la nation. Et le reste, bon, on verra, on fait des adaptations, des compromis. Moi, je pense qu'il n'y a pas de compromis possible sur la vie. La vie est un don de Dieu. Toutes les vies sont adorables, sont à accueillir. Et ça, j'aimerais bien qu'un parti qui naisse, voilà, on l'a appelé Amen, arrêtons le massacre des enfants à naître. A-M-E-N. Donc ça dit tout le programme.
Effectivement. Alors, serez-vous présent au régional ?
Oui, on a fait une présence déjà aux européennes, et cette fois-ci de nouveau, on fait ça avec un partenaire qui s'appelle qui s'appellent Solidarité France, qui ont à peu près notre programme, mais disons plus général. C'est pas aussi attaquant que nous, aussi prophétique, mais c'est quand même 100% pour la vie comme nous. C'est très parallèle. Nos deux mouvements sont très parallèles. Ils s'appellent. Alors eux, ils ont fait toutes les démarches nécessaires avec la commission paritaire à Paris. Ils ont le statut de partis politiques. Ils ont un chéquier numéroté pour les reçus, etc. Nous, on est encore au stade, si vous voulez, officiellement de l'association. Mm-hmm. On fait aussi des reçus, mais c'est comme une association. Donc, on s'est lié avec eux. Eux, ils font la liste officielle. Et on fait derrière eux, qui ont donc toutes les permissions de donner une liste et de mm-hmm. se présenter, un groupe d'associations pro-vie. Donc il y aura SOS Maman, il y aura UNEC, il y aura Radio Silence, il y aura, Solidarité, il y aura 5-6, et ça apparaîtra en parenthèse derrière chaque nom. Mais il faut 225 noms, rien que pour l'Île-de-France, pour les régionales.
D'accord. Alors autant pour SOS Maman, si j'anticipe un peu votre, oui. votre propos... Pour SOS Maman, vous avez besoin donc de gens pour vous aider à accueillir les jeunes filles. Mais pour Amen, vous avez peut-être besoin de candidatures.
Simplement de candidats. C'est pour ça. Moi, je crois là, il y a aussi une chance pour nos malades et pour nos anciens qui disent « Oh, vous faites un bon combat, mais on ne peut rien faire. Mmh. » Si, là, c'est facile.
Là, ils peuvent signer et donner leur nom.
Ils peuvent signer. C'est très facile. C'est un petit formulaire à remplir pour les coordonnées. Hein. Ça, oui. C'est pour l'étape.
Alors, pouvez-vous les donner, là, les coordonnées, justement, de
oui,
SOS
ça,
Maman
on l'envoie à ceux qui
mais là, pouvez-vous les donner maintenant, à l'antenne?
Oui.
Un téléphone, un courriel.
Oui, alors, c'est pour faire simple, c'est la même adresse, aussi bien pour SOS Maman que Amen, parce qu'on a une boîte postale en commun. Donc ça facilite les choses. Donc vous écrivez ou à Amen pour candidature ou à SOS Maman pour un chèque pour Noël, n'est-ce pas? Alors pour les deux, l'adresse est très simple, c'est boîte postale 70. Alors, 70 114, et ça se trouve dans le Val-d'Oise, 95-210 Saint-Gratien. Boîte postale 70 114, 95-210 Saint-Gratien.
Alors, bon, de toute façon, cette adresse, sera disponible sur le blog de Radio Courtoisie.
D'accord.
Très vite, hein, dans l'espèce de petit commentaire que notre cher blogmestre va mettre... en parlant de l'émission, donc tous les auditeurs qui n'ont pas pu noter, je leur donne rendez-vous sur le blog de Radio Courtoisie et ils vont voir dans l'intitulé du Libre Journal de l'identité de ce 18 décembre et ils trouveront toutes les coordonnées de SOS Maman. Alors, vous avez une dernière chose à annoncer, je crois, c'est une conférence de presse.
Oui, le 4 janvier, comme l'an dernier, on fait une conférence de presse de début d'année. Mm-hmm. Ça se fera dans l'hôtel Claude Bernard, 43 rue des Écoles, Paris 5e. Hôtel Claude Bernard, 43 rue des Écoles, le 4 janvier à 11h.
À 11h.
Bon, il y aura quand même un petit champagne pour commencer l'année, pour ceux qui veulent, venir.
Bon, il y aura peut-être un envoyé spécial du Choc du Mois.
Pourquoi pas, oui.
Ah, ça sera sympathique.
Bon. Alors, chers donc Léa et Winfried Jurmeling, je vous remercie beaucoup d'être venus au micro de Radio Courtoisie.
C'est nous. Merci à vous.
Ben, vous défendez une cause qui vraiment mérite de l'être, donc vous êtes toujours les bienvenus, réellement. Hein. J'espère que beaucoup d'auditeurs vont vous aider. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt.
À bientôt, au revoir.
Au revoir.
Et bon Noël.
Merci, vous également.